Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
François Hollande et Barack Obama ont un point en commun, ça n'est ni leur coupe de cheveux ni leur façon de porter la cravate, non. Tous les deux sont à la moitié de leur mandat. Et à y bien réfléchir, ils ont un second point commun, cette mi-mandat est difficile. François Hollande recueille 15% d'opinions favorables dans les sondages de popularité et une pluie de critiques, quand ce n'est pas de la pluie tout court d'ailleurs. Obama, lui, vient de perdre les élections des mid-terms et se retrouve donc avec un congrès républicain. Mais c'est là que s'arrête la comparaison. Car alors qu'en France, on attend toujours le droit de vote des étrangers promis par un candidat Hollande qui a depuis ravalé toutes ses réformes sociétales suite au mariage pour tous, Barack Obama, lui, poursuit les réformes qui ne font pas plaisir aux républicains. Il devait ainsi annoncer aujourd'hui son programme sur l'immigration qui vise à régulariser provisoirement les 11 millions de clandestins sur le sol américain. Tout le monde est d'accord pour dire que notre système d'immigration ne fonctionne plus, a-t-il déclaré. Une décision pourtant désapprouvée par près de la moitié des Américains, contre 38% qui y sont favorables.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, vous entendrez une interview de Majid Cherfi, membre du groupe toulousain Zebda, qui passe ce soir au Shabada dès 20h. Ce sera juste après la chronique dans les eaux internationales de Thomas et juste avant la chronique culturelle sous-marine d'Anaïs. Mais d'abord...
Je me suis pris une porte.
Il est comme ça, gros con.
J'ai glissé dans ma baignoire.
Un brin paumé légèrement abîmé.
Je suis tombée à vélo.
Tu rentres, gros con. Lui peut toujours t'assurer, hey, que celle-là tu l'as pas volée.
Les Fatal Picard, gros con, qui avait réalisé un spot contre les violences faites aux femmes. Mardi prochain, 25 novembre, c'est donc la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une journée soutenue par l'ONU. L'ONU, dont l'Assemblée Générale a défini le terme « violence à l'égard des femmes » par « tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». Bonsoir Isabelle Morisseau.
Bonsoir.
Vous êtes accueillante au planning familial et spécialisée dans l'accueil des personnes victimes de viols et d'agressions sexuelles.
Oui.
Entre autres, on parlera d'ailleurs tout à l'heure de d'autres sortes de violences. Depuis combien d'années est-ce que vous exercez cette profession et est-ce que vous avez pu constater une évolution ?
Alors, j'exerce depuis pas suffisamment longtemps pour avoir constaté une évolution. Donc, je suis au planning d'Angers depuis plus de 10 ans, accueillante hein, comme mes collègues. Et puis, on fait partie du collectif d'égal à égal, beaucoup plus récent, qui essaye de faire des actions de visibilité par rapport à ces questions. Donc, l'évolution, non. On a l'évolution des chiffres. Et puis, peut-être, ce qui est très positif pour nous, c'est quand même une augmentation régulière du nombre de personnes accueillies pour viol, agression sexuelle, violence au sein du couple, ce qui nous donne un peu d'espoir parce que quand on accueille une personne qui vient de subir des violences et qui ne vient pas pour des violences très anciennes, on a quand même confiance dans la reconstruction possible pour elle. Ce qui est plus compliqué quand on a quelqu'un qui vient à 50, 60 ans pour des violences qui ont eu lieu quand elle avait 10 ou 12 ans.
Donc pour vous, paradoxalement, la hausse de la fréquentation, c'est un point positif?
Oui. Comme serait positif d'une certaine façon la hausse du dépôt de plainte. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, sur la question du viol ou de l'agression sexuelle, une personne sur 5 dépose plainte. Et ce chiffre-là, s'il augmentait, pour moi, en tout cas, voudrait dire que les personnes ont de plus en plus confiance dans les services de police, de justice, de gendarmerie, et osent dire les choses. Ce qui est ce qui progresse pas mal au niveau des violences de couple, plus difficilement, par rapport aux violences sexuelles, hein, y compris les mutilations sexuelles ou le mariage forcé, par exemple, qui sont des violences toujours très taboues, très tues. Ça, c'est une évidence.
Quel est votre rôle précis, en fait ? Alors, vous les accueillez, puis vous les aiguillez ensuite ?
Alors nous, le Planning est une association très généraliste sur la question de la sexualité en général et des côtés plus difficiles de la sexualité, y compris des rapports sous contrainte, quel que soit le type de contrainte. Donc on a une mission première d'accueil des personnes, où là on fait notre travail en tant que professionnel, mais aussi de dénonciation, de mobilisation au niveau des services publics. On est consulté, on peut faire partie des réseaux d'associations qui ont consulté quand il y a une loi, par exemple. On a des choses à dire sur les obstacles au dépôt de plainte ou des choses à dire sur les prises en charge sociales qui suivent une situation de viol ou d'agression sexuelle, par exemple, ou de violence conjugale. Donc notre rôle, il est de ces deux côtés-là, plus le rôle de prévention. Donc ça, c'est drôlement intéressant de pouvoir à la fois recevoir des personnes avec tout leur vécu, qui n'est pas simple, et puis aussi de pouvoir intervenir auprès des jeunes, garçons ou filles, à la maternelle, à l'école élémentaire, au collège, au lycée, en post-bac par exemple aussi, auprès des étudiants, pour parler du sexisme et du lien entre les violences dites ordinaires et les violences pénalisables. Donc voilà.
On va faire un petit point sur les chiffres. Donc chaque année, 201 000 femmes âgées de 18 à 59 ans sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime, ça veut dire 1,2% de la population. Évidemment, c'est une estimation minimale. En 2013, le nombre total de décès s'élevait à 129 femmes battues sous les coups de leur conjoint. Chaque année, 83 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Et la France comptait en 2004 environ 53 000 femmes adultes qui auraient subi des mutilations sexuelles. Donc les violences faites aux femmes, ça recouvre beaucoup de formes différentes. Si vous voulez bien, on va commencer par les violences domestiques, qui peuvent donc être physiques ou sexuelles. J'imagine qu'il n'y a pas de profil de victime, que ça peut toucher tout le monde.
Oui, on reçoit des personnes effectivement qui sont de toute origine culturelle, de tout milieu socioculturel, des femmes actives, des femmes qui sont au foyer, c'est vraiment une population énorme, des hommes, beaucoup moins, mais des hommes aussi, hein, ce sont les mêmes processus qui font qu'à un moment donné, l'un des deux partenaires dans le couple va nier l'existence de l'autre et puis atteindre à sa dignité d'une façon ou d'une autre. Hein, donc des violences physiques, des violences économiques, des violences morales, des situations de séquestration, etc., etc.
Ça, c'est un processus, vous dites, de négation de l'autre ?
Oui. Pour nous, oui, on lit les choses comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'autorise à penser que l'autre doit se comporter comme je veux qu'il ou elle se comporte, exactement, et que sinon, ça va mal se passer, avec tout le jeu, dans le cadre du couple, tout le jeu douloureux pour les personnes, de dire, quand elles en parlent, que finalement, elles ne savaient plus, à un moment donné, quand elles avaient tort ou raison, c'est-à-dire que l'autre tient les règles du jeu, donne les règles du jeu, et change en permanence les règles du jeu. Un jour, je fais ça parce que quand il rentre, par exemple, au domicile, il faut que les enfants soient couchés. Donc, je fais tout mon possible pour que tout colle bien, pour que le repas soit prêt. Et ce soir-là, c'était pas là. Pourquoi les enfants, c'était pas ça. Pourquoi les enfants sont couchés? Moi, je voulais les voir. Et donc, ça va déclencher une crise violente. Et le lendemain, ça va être l'inverse. Et au bout d'un moment, elles ne savent plus ce qu'elles font, ce qu'elles peuvent faire pour que tout se passe bien, pour éviter la situation explosive.
Et alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Vers qui se tourner? Comment réagir face à ça?
Alors, on reçoit, nous, des personnes qui, heureusement, arrivent à se tourner. Alors, comment dire? Quand elles viennent vers nous, ou vers les services de plainte, hein, ça peut être ça aussi, c'est souvent juste après la crise violente. C'est-à-dire le moment où tout d'un coup, elles ne peuvent plus nier que c'est pas acceptable, c'est insupportable. Malheureusement, on a beaucoup de situations où, faute de pouvoir faire autrement, elles retournent au domicile, auprès du conjoint violent, qui va de la façon la plus sincère possible parfois s'excuser. Il y aura toute une phase de lune de miel où il va lui promettre que ça va changer, que ça recommencera pas, etc. Et donc là, on a un retrait des personnes. Elles vont dire que finalement, elles se sont trompées, que c'était juste un conflit, que ça arrive dans tous les couples, etc., etc. Et puis attendre et se dire que ça va aller mieux, qu'on oubliera tout et que ça passera. Et puis, ça passe pas forcément, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ?
Donc, nous, on est bien mal placés pour conseiller aux gens de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va aider les personnes déjà à comprendre ce qui se passe, à identifier que là, elles sont dans un système de violence, à être très claires sur les responsabilités. C'est pas parce qu'elles savent pas bien cuisiner que ça justifie la crise violente, hein, j'exagère, mais c'est parfois ça, hein, ça semble dérisoire quand on le voit de loin. Donc bien redonner les responsabilités de l'auteur des violences et de elles qui en sont victimes. Et puis on va essayer de les outiller pour le jour où elles seront prêtes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Donc, c'est des choses très, très concrètes. On va essayer d'éclaircir avec elles. Est-ce qu'elles ont un compte en banque personnel? Est-ce qu'elles ont un endroit où aller? Est-ce qu'elles ont des personnes de confiance autour d'elles? Est-ce qu'elles savent où aller, ne serait-ce que pour se reposer? Est-ce qu'elles savent aussi qu'elles peuvent quitter le domicile avec les enfants dans certaines conditions pour se protéger? Donc, on va beaucoup les informer et puis les aider à préparer. Si un jour, ça devait revenir, qu'est-ce que vous pourriez mettre de côté pour partir, hein, pour fuir?
Thomas ?
Je me posais la question de la première personne à qui on va parler du fait qu'on a subi une violence physique. Et je me dis, et j'ai d'ailleurs eu l'expérience, finalement on se tourne souvent vers des amis très proches. Et je me disais, souvent dans la communication, etc., des associations de votre type, elles s'adressent directement à la personne qui est victime de violence et dire voilà, ça c'est pas acceptable, ce qu'il faut faire, vers qui il faut aller. Est-ce que vous auriez des conseils à donner justement aux personnes qui voient bien que son ami est maltraité ou même chez qui son ami vient le voir pour en parler? Est-ce que vous auriez des choses à dire quand on est aussi proche de la personne, des choses à conseiller?
On reçoit, nous, des personnes de l'entourage. Moi, je me souviens d'une situation, on avait reçu le facteur. C'est-à-dire que ce monsieur était venu, en l'occurrence à l'association SOS Femmes, en disant, voilà, il y a une des personnes, enfin dans ma tournée, il y a une des maisons dans laquelle je m'arrête où je vois bien qu'il se passe quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Donc petit à petit, on lui a donné des éléments, il est retourné, il a réussi à entrer en contact avec la personne qui relevait le courrier de l'autre côté de la porte, qui était la dame. Et puis un jour, il a pu lui passer le numéro du 3919, en lui disant, ben voilà, si vous pouvez appeler. Et là, du coup, il y a toute une prise en charge qui s'est mise en place. Donc, ça a été long et difficile, mais voilà, on peut recevoir des parents. Moi, ça m'arrive régulièrement, des parents qui voient bien que la situation se dégrade dans le couple d'un des enfants, par exemple, en sachant pas comment se positionner. Et c'est vrai que la tentation, c'est d'aller dire à la fille ou au fils, mais te laisse pas faire, quoi. Or, la personne, c'est pas ça le problème. Non. C'est qu'elle fait ce qu'elle peut et pas plus. Donc, vraiment, rester disponible, rester ouvert à l'écoute, en disant que moi, je juge pas, j'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais orienter au maximum vers des professionnels. C'est des situations vraiment difficiles, complexes, et c'est compliqué à porter pour l'entourage.
Autre forme de violence auxquelles vous êtes amené à réagir, s'il s'agit du viol. Le viol qui peut donc avoir lieu au sein du couple. Dans 30% des cas, c'est le cas.
C'est une des violences et celle dont les femmes, alors je parle des femmes parce qu'elles sont majoritaires, parlent le moins. C'est-à-dire que souvent, elles vont venir vers nous pour des violences physiques ou vers les services de police ou de gendarmerie pour des violences physiques. Les violences sexuelles, elles vont être tues parce que dans les situations, alors pas seulement dans le couple, hein, dans les situations de violences sexuelles, ce qui est très spécifique, très particulier, c'est que, ou peut-être plus fort, c'est que les personnes vont vraiment se construire une difficulté ou une impossibilité à parler sur la honte et la culpabilité. Elles pensent qu'elles sont responsables de ce qui s'est passé. Elles pensent que le regard social va les juger et mal les juger. Parfois, elles sont confortées par ça. Dans ça, en tout cas, donc c'est très difficile pour elles de dire les choses. Et du coup, en matière conjugale, quand finalement la situation peut se résoudre sans parler des faits sexuels, les personnes évitent d'en parler. Pour les situations de viol ou d'agression sexuelle, il y a un processus qui est tout à fait humain, c'est-à-dire que le cerveau, notre cerveau est bien fait, il essaye de se protéger de ce qu'on a vécu de douloureux. Donc, tout ce qui va rappeler de près ou de loin à la personne le vécu de la situation de viol ou d'agression sexuelle, y compris un face-à-face avec un psychologue, par exemple, qui peut être silencieux, comme pouvait l'être l'auteur, y compris dans le dépôt de plainte, le fait de faire revivre ces événements, d'être amené à revivre ces événements, les personnes vont spontanément fuir ces situations. Donc elles fuient toute situation qui évoque le vécu, dont la situation de pouvoir dire à un moment donné, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire? Et puis derrière, il y a, est-ce que c'est bien ça que la loi appelle un viol ou une agression sexuelle? Est-ce que je peux déposer plainte? Est-ce que la personne peut répondre de ses actes devant la société à travers le juge, en fait la justice?
C'est quoi la différence, est-ce que vous pouvez expliciter, entre une agression sexuelle, un viol? Et dans une autre catégorie, le harcèlement sexuel, qu'est-ce que ça recouvre?
Donc, le viol n'est qu'une des agressions sexuelles. Dans les agressions sexuelles en général, on a la situation de harcèlement, on a ce qu'on appelle les agressions sexuelles sans contact. la situation de harcèlement, elle l'est. Les agressions sexuelles sans contact, c'est aussi l'exhibitionnisme, la rencontre avec un exhibitionniste, par exemple. Le viol n'est qu'une des agressions sexuelles qui est particulièrement pénalisée parce que la justice achoppe sur la question de la preuve dans toutes ces situations-là et que le viol, physiquement, peut laisser des traces. Donc là, on a une preuve de ce qui s'est passé. Voilà. Donc voilà, c'est le viol et l'agression sexuelle, on a à peu près les mêmes définitions légales, plus la question de la pénétration sexuelle, bouche, vagin ou anus pour le viol. Donc on a à peu près en France 10 000 à 10 500 plaintes pour viol par an, ce qui représente une partie, hein, donc seulement des personnes qui ont été victimes de viol. Les chiffres d'agression sexuelle sont beaucoup plus larges, puisque c'est vraiment une question qui est très multiforme, justement. Donc, voilà.
Il reste, il y a plein de formes de violence faites aux femmes, et il y en a peut-être deux auxquelles on pense moins, peut-être parce que c'est moins médiatisé. Il s'agit du mariage forcé et des mutilations sexuelles. Mmh. Une étude conjointe de l'INAD et de l'INSEE, qui date de 2011, expliquait que les mariages non consentis sont plus fréquents chez les femmes immigrées que chez les filles immigrées nées en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi ?
Oui. Et là, oui, tout à fait. Et là, je pense qu'on retrouve cette question de l'éducation. La force ou la puissance de l'éducation, c'est-à-dire que nous, on se bat pour qu'en prévention primaire, c'est-à-dire auprès de tous les jeunes qui n'ont pas vécu a priori de situations de violence, en tout cas, on peut leur souhaiter, on puisse travailler sur la question de l'égalité. Les filles scolarisées, les jeunes filles scolarisées, y compris d'origine culturelle différente, vont apprendre qu'en France, la loi est celle d'une égalité entre les hommes et les femmes, qu'il y a des moyens aussi pour y arriver. Et puis, ce sont des valeurs qu'elles vont vraiment acquérir et essayer de défendre à leur tour pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour les générations à venir. Donc, travailler sur les questions d'égalité entre hommes et femmes, en quoi ce serait plus ou moins acceptable pour une femme, pour un homme, etc. Telle ou telle prise de position au sein du couple ou de la communauté ou du groupe. Travailler sur les questions de comment on peut résoudre un conflit de manière non violente. Hein, comment on a tous le langage qui peut permettre de respecter ce qu'on appelle le consentement. Hein, donc cette délicatesse envers soi-même et envers autrui qui fait que tout est possible dans la mesure où l'un et l'autre savent de quoi il s'agit et sont consentants. Donc travailler avec les enfants et les jeunes sur ces deux questions-là, ça me semble extrêmement intéressant. Et puis oser parler de la sexualité de façon très libre. On est un des vieux mouvements qui avons défendu ce qu'on appelle la liberté sexuelle, une liberté encadrée, c'est-à-dire une liberté dans le respect de soi-même et d'autrui. Hein, tout est possible à partir du moment où on en est d'accord tous les deux.
Et cette même étude notait que les chiffres diminuaient le nombre de personnes victimes de mariage forcé. Est-ce que c'est le cas ou non, vous n'avez pas pu remarquer
Oui, c'est compliqué, nous en tant qu'accueillants, d'avoir une vue d'ensemble. Hein. Là, c'est vrai que c'est les sociologues ou les démographes qui vont nous faire des études, mais c'est possible.
Que le travail justement
C'est possible parce que d'une part, ça évolue en France. Les jeunes qui sont nés sur le territoire français apprennent aussi à vivre autrement, remettent en question aussi certaines valeurs très traditionnelles. Ce qui était bon, et ça c'est difficile, ce qui était bon, eh bien, je pense aux mutilations et aux femmes que j'accueille, qui me disent mais mes grands-mères, mes mères faisaient ça. Et donc c'est difficile sans condamner les parents, les arrière-grands-parents, de dire oui mais c'est possible de faire autrement. Donc ça devient éventuellement possible. Donc il y a une évolution, ça c'est certain. Et puis dans les pays d'origine, ça évolue beaucoup. Je pense aux pays d'Afrique par rapport aux mutilations ou au niveau de la radio. Les lois ont évolué, mais bon, les lois c'est une chose. Les mentalités évoluent parce qu'il y a, comme vous à Radio Campus, énormément de jeunes qui se mobilisent, d'hommes. Ça c'est important, qui se mobilisent contre cette question des mutilations. Je ne voudrais pas épouser une femme qui soit coupée, qui soit mutilée. Et du coup, ça c'est extrêmement fort pour la communauté. Donc ça bouge dans les pays d'origine aussi.
Oui, moi j'avais une autre question, c'est sur les viols domestiques, on va dire, dans le couple, etc. Vous avez dit, ça a changé, les pratiques ont changé, etc. Parce que, justement, ce que la grand-mère acceptait, maintenant on l'accepte plus. Et pourtant, là, récemment, j'ai vu plusieurs articles de magazines féminins qui titraient, par exemple, comment faire l'amour à son conjoint, même quand on est fatigué. Ou comment accepter le fait qu'il me fasse l'amour, même quand je dors. Et ça m'a vachement surpris, parce que justement, je croyais qu'on était vraiment sur une pente ascendante, on va dire, de prise de conscience. Et en fait, je me rends compte que... Je sais pas quel phénomène est derrière ça, mais certains magazines féminins ont écrit des articles comme ça, et je sais pas si vous avez une idée sur ce qui se passe.
Oui, je pense que c'est compliqué, en tout cas pour les jeunes générations. Nous, ce qu'on se dit régulièrement, c'est chasser quelque chose par la fenêtre, ça revient par la porte ou vice-versa. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des évolutions actuellement qui ne peuvent qu'être troublantes pour les jeunes gens, c'est-à-dire des messages très forts qui sont renvoyés. On a défendu, nous, pendant très longtemps, et on le défend, que pouvoir dire oui, c'est pouvoir dire non. Pouvoir dire non, c'est pouvoir dire oui. C'est-à-dire que je suis responsable aussi de ce que je fais. Et un non, c'est pas... Alors là, c'est délicat par rapport en matière sexuelle, dans l'exemple que vous donniez, Thomas. Quand je te dis non ce soir, je te dis pas non à toi. Je dis non au rapport, ou non à telle pratique, ou non pas à cette fréquence-là, ou pas à ce rythme-là, et t'es libre de l'accepter ou pas. Ça peut remettre en question un couple, mais en tout cas, mon non, il est respectable comme le tien, quoi. Donc, effectivement, on a toute une tendance de... actuellement, là, on travaillait sur la sexualité à l'adolescence, et on regardait un petit peu ce qui passe sur Internet, ce qui passe dans les médias. Les messages sont... je dirais pour le moins troublant pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on reste sur des vieilles choses. Quand on décrypte, par exemple, les magazines qui sont lus par les 13-15 ans, dans un couple traditionnellement hétérosexuel, hein, c'est le modèle qu'on voit dans les magazines, et sinon ça change en fait pas grand-chose, dans un couple, il y en a un qui pilote, et au hasard, c'est le garçon. Et il y a des messages très paradoxaux, c'est-à-dire qu'il y a une des valeurs fortes. Moi, je rappelle régulièrement cet article d'un magazine que je ne citerai pas. C'était un article de l'été qui proposait aux jeunes filles de faire un test. Quel partenaire sexuel êtes-vous ? Et donc, moi, j'ai fait le test, c'était très intéressant. Le résultat, c'était, on était classé en 4 catégories. C'était super extra salope, salope normale, ringarde ou dinosaure pré-68arde.
D'accord.
Oh, la vache.
Donc, ça veut dire que le message renvoyé aux jeunes filles, hein, c'est un magazine qui est lu beaucoup par les 13-15, c'est aujourd'hui, il est de bon ton d'être une salope normale. Une vierge expérimentée. Une fille sexy, pas vulgaire. Enfin bon, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué.
Est-ce qu'on peut aborder la politique qui est mise en place par le gouvernement sur la question justement du droit des femmes ? Par exemple, le gouvernement a ratifié la convention d'Istanbul en juillet dernier. C'est le 13e État à le faire. La convention d'Istanbul, c'est une convention qui dresse les standards minimums en matière de prévention, de protection des victimes et de poursuite des auteurs. La France a également mis en place un plan triennal sur cette question du droit des femmes. Alors, il y a un gros budget, évidemment. Il y a également des solutions d'hébergement d'urgence, des intervenants sociaux en commissariat, le numéro unique que vous avez cité tout à l'heure, un kit de constatation en urgence des viols expérimentés et le téléphone grand danger généralisé. Est-ce que tout ça, c'est cosmétique ou est-ce que ça va être vraiment efficace selon vous ?
Alors, on espère, nous, que ce sera efficace. En tout cas, ça marque une volonté politique forte. Ça, on ne peut pas le nier. Ça marque vraiment une volonté. On attend les moyens. Ça, c'est une question importante, notamment en matière d'hébergement et puis tout simplement de survie de nos associations, des structures qui peuvent accueillir des associations d'aide aux victimes d'une façon générale, que ce soit au niveau des numéros téléphoniques d'appels qui sont importants, mais aussi dans la proximité de lieux où les personnes puissent venir prendre un thé, un café, parler de ce qui s'est passé dans l'anonymat, ce qui est le cas chez nous, et puis être accompagné petit à petit dans une prise de conscience s'il y a besoin, dans une démarche aussi. Et puis ensuite, dans la reconstruction, ça prend quand même quelques années. Toutes ces mesures, elles sont extrêmement positives. Après, ça peut sembler dérisoire en première lecture face à la gravité du phénomène. Hein, donc, on est sur un viol toutes les 6,3 minutes en France, par exemple, juste sur la question du viol consommé. Donc, ça peut sembler un peu dérisoire, mais là, ce dont vous parlez, ce sont aussi des textes internationaux, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la difficulté qu'il y a à essayer de hausser le débat à un certain niveau et d'amener certains pays qui sont bien loin avec nous dans la barque de « on va se battre pour l'égalité entre les hommes et les femmes ». En France, il y a quand même eu des gros progrès, notamment au niveau de la loi. Après, ce sont plus les moyens sociaux qui manquent, c'est-à-dire toutes les structures, que ce soit l'assistante sociale, que ce soit l'hébergement. Enfin, là, c'est compliqué sur le territoire avec des inégalités encore très fortes suivant les régions.
Vous attendez de voir, quoi. Les annonces, pour l'instant, on verra comment ça marche.
On verra comment ça marche sur le, dans la réalité.
Donc, on rappelle que mardi prochain, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est long comme titre, mais c'est important. Et à Angers, on peut souligner qu'il y a des portes ouvertes qui sont organisées dans certaines associations l'après-midi, le mardi après-midi, au planning familial, chez SOS Femmes. Et ensuite, c'est suivi d'une pièce de théâtre. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette pièce de théâtre ?
Du coup, on va avoir une soirée autour d'un théâtre forum, c'est-à-dire un théâtre très interactif, avec, où justement il va s'agir de travailler sur la possibilité d'intervenir à un moment donné. À un moment donné, d'aller dire « moi là, je ferai ça ». Et de se mettre aussi dans la peau d'une personne qui est victime de violence, de harcèlement. Est-ce que c'est si facile ? On ne peut pas être sur de l'injonction, il n'y a qu'à faire ça. Il n'y a qu'à faire ça, tu pourrais, tu devrais, tiens, t'aurais dû, mais pourquoi t'as pas répondu, pourquoi t'as pas dit non? Tout ce qu'on entend régulièrement, t'étais habillée comment? Donc la pièce, elle va aborder ces questions-là très très concrètes, c'est-à-dire à quel moment on identifie qu'il y a violence ou qu'il y a un glissement qui pourrait faire peur, à quel moment la peur s'installe, à quel moment certains signaux vont fonctionner et comment réagir pour expérimenter qu'il y a plusieurs façons de réagir, que dans tous les cas, et ça c'était l'enquête en VEF en 2000 qu'il disait, les femmes ne sont pas passives face aux violences. Elles ont des réactions qui peuvent passer par des choses extrêmement diverses, mais elles essayent de faire, elles essayent de s'en sortir. Personne n'est bien dans une situation de violence, pas plus l'auteur d'ailleurs hein, que les personnes victimes. Nous on travaille aussi en prévention pour dire et redire que un auteur de violence, il a aussi besoin de rencontrer le mur de la loi pour que ça s'arrête pour lui.
Merci beaucoup Isabelle Morisseau d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci.
Everybody, 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 everybody.
C'était Big House Waltz de Dyroff.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on retrouve Thomas.
Tiphaine, tu entends ce bruit ?
Oui.
Cette nuée de colibris que l'on entend au loin, ce sont des photographes qui immortalisent une scène qui a eu lieu ce samedi de l'autre côté de la planète, en Australie plus exactement.
Un nombre aussi important de journalistes en Australie, donc il y avait une rencontre internationale de rugby ce week-end, les All Blacks devaient défier les Wallabies, c'est ça ?
Désolé de te décevoir Tiphaine, mais les torses velus et les cuisses d'acier, ce sera pour une prochaine fois.
Comment il est ?
Cette scène que l'on entend se déroule à Brisbane, troisième ville d'Australie. C'est l'arrivée des plus grands chefs d'État de notre monde au G20. Mais si, Tiphaine, le G20, tu sais bien, c'est ce rassemblement annuel des dirigeants des 20 plus grandes puissances économiques mondiales. On y discutera croissance, PIB, finances, emploi et environnement. Tiens d'ailleurs, le voici, le voilà, François Hollande, qui vient serrer la main du Premier ministre australien Tony Abbott, l'hôte du week-end. Et il sait y faire, notre président. Sourire Colgate aux lèvres, regard malicieux pour les journalistes, on dirait presque que nos deux héros prennent la pose pour les calendriers des dieux du stade. Ça en deviendrait même un peu chaud.
Tu vois, je savais bien qu'il y avait un rapport avec le rugby. Bon, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé cette année au G20, Thomas ?
Tu sais, Tiphaine, le G20, c'est un peu comme une maison des secrets. Oh non, 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 non. Je vous arrête tout de suite, pas ce genre de secret-là. Même si c'est vrai que cette arrivée sous les projecteurs fait un peu ressembler les grandes ce monde à des stars de la télé-réalité. Non, soyons plus sérieux. Car le secret qui est actuellement au cœur de toutes les tensions, c'est celui que garde Vladimir Poutine et que Barack Obama adorerait découvrir. Ce secret, on en connaît pourtant déjà les grandes lignes. La Russie aimerait bien se marier avec l'Est de l'Ukraine. Depuis quelques jours, les États-Unis auraient des témoignages rapportant l'arrivée massive de soldats russes dans les enclaves devenues indépendantes de l'Est ukrainien. Des images satellites attesteraient leur dire, montrant des hangars et des camps d'entraînement russes pour aider les séparatistes à gagner la guerre. De leur côté, les puissances occidentales, elles aussi, fournissent actuellement des armes à l'armée de Kiev en espérant un jour reconquérir ces territoires.
Mais je croyais qu'un cessez-le-feu avait pourtant été signé entre les forces en présence fin septembre.
Et oui, on espérait alors une fin de la guerre civile, mais mercredi dernier, l'ONU tire la sonnette d'alarme et redoute l'escalade, allant même jusqu'à affirmer la possibilité d'une guerre totale dans la région. Et c'est lundi le président europhile Petro Poroshenko, fraîchement élu, qui affirme se préparer à ce scénario de guerre totale.
Bah tu m'as dit que tout le monde se souriait, y compris Obama et Poutine ce week-end, et que l'ambiance était visiblement festive, non ?
Ouais, c'est carrément paradoxal. Alors qu'une guerre risque d'éclater entre la Russie et les États-Unis sur un territoire aux frontières de l'Union européenne, au G20, c'est accolade de rigueur. Bon, il faut quand même souligner que Vladimir Poutine n'a pas eu la force de jouer à ce jeu de dupe trop longtemps. Après que les photographes et les caméramans aient leurs images, il a décidé de bouder le repas de gala prévu le soir même. Les puissances occidentales en profitèrent alors pour dénoncer ce comportement inadmissible et belliqueux. Pourtant, alors qu'ils étaient tous dans la même pièce, aucun d'entre eux n'a souhaité évoquer le conflit. François Hollande, qui a rencontré le président russe, n'a même pas soulevé la question, en particulier celle du blocage de la commande des deux avions de guerre, les fameux Mistral. Les rencontres du G20 ne sont donc plus que de simples vitrines pour des politiques cherchant une stature internationale. D8 et Energy 12 envisageraient d'ailleurs d'acheter les droits de retransmission de ces rencontres pour créer de nouvelles émissions de télé-réalité. Lagarde, Obama et Poutine qui caressent des koalas, ça risque de faire de l'audience.
Merci Thomas.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Tout à l'heure, le groupe Zebda sera sur la scène du Shabada pour présenter leur 8e album studio comme des Cherokees. L'occasion pour Radio Campus Angers de passer un coup de téléphone à Majid Cherfi, l'auteur et l'un des chanteurs du groupe. Bonjour Majid Cherfi.
Bonjour.
Vous faites partie du groupe Zebda, le groupe que tout le monde connaît grâce à Tomber la chemise, même si ça peut peut-être maintenant vous agacer. Vous avez sorti votre 6e album studio comme des Cherokees, et je crois que vous préférez le présenter comme votre 2e album après Second Tour et votre pause de 8 ans.
Oui, c'est vrai que on considère aujourd'hui qu'on est dans le Zebda numéro 2, un peu comme les gouvernements de la République, c'est Zebda 2. Parce qu'il y a eu un break de 8-9 ans entre les deux Zebda, et que les mecs qui se sont retrouvés après n'étaient pas tout à fait les mêmes.
Comment vous expliquez ça ? Et pourquoi ce break ? Et comment on y revient à Zebda ?
Ben, le break, en fait, parce que en réalité, bon, les gens, c'est vrai, la plupart des gens nous connaissent de l'album Essence Ordinaire, et le titre Tomber la chemise. Et on oublie que 15 ans auparavant, on était déjà sur les routes, dans un Iveco rouge, à jouer de janvier à décembre, et que l'usure s'est installée, et qu'on a eu besoin qu'il se passe quelque chose, parce que la machine devenait implacable et qu'il n'y avait plus que ça dans la vie. Et que le Zebda 2, ben, c'était du coup des mecs qui tenaient compte de leur entourage, de leurs parents, enfin de la vie réelle. Et comment faire de, que le groupe perdure, mais où il ne serait pas, où la vie ne serait pas que ça, mais elle tiendrait compte aussi des gens qu'il y a autour de nous, où on tiendrait compte de nos envies, d'autres choses, des idées individuelles.
Chacun continue ses projets solo qu'il avait commencé pendant ce break ou pas?
En tout cas, c'est l'idée qu'on a soulevée, c'est-à-dire que désormais, on considère qu'on est à la fois des Zebda, mais qu'on considère que chacun d'entre nous a une autre idée en tête. Moi, par exemple, c'était l'envie d'écrire des bouquins, donc j'ai commencé à le faire. Et que voilà, j'attends après une pause quelconque pour continuer mon travail parallèle.
Le titre de cet album donc, dont on va parler, c'est Comme des Cherokee. Vous expliquez dans des interviews que quand vous étiez petit, vous pensiez plutôt cow-boy et que maintenant, vous pensez plutôt indien. Est-ce que vous pouvez expliquer ça?
Oui, parce que comme tous les mômes, en fait, bon, moi, dans mon quartier, comme partout ailleurs, les mômes veulent être des cow-boys parce que on nous a montré à la télé que les Indiens, c'était les méchants. Et quand on est môme, on croit la télé. Et on se met tous à être des cow-boys. Et puis, il y a une prise de conscience qui se fait avec le temps. Et on se dit, mais je me suis planté. Moi, je veux être l'Indien. Le barbare, c'est le petit blanc catholique qui élimine l'autre, le plus faible, qui veut en faire son esclave et qui partout où il passe, eh ben, commet des atrocités et s'empare de toutes les richesses. Et nous, on s'est rendu compte que en tant que fils d'Algériens, ben, on était plutôt des Indiens, on était plutôt des Noirs, et on a commencé à s'identifier aux minorités ou aux peuples qui ont été disséminés par, en gros, le colonisateur blanc, et qu'on n'était pas de ce côté-là, on était de l'autre côté. Et depuis, on est resté du camp des minoritaires.
Et d'ailleurs, dans vos morceaux sur cet album, et comme sur les précédents d'ailleurs, vous parlez de ces minorités, vous parlez des Chibani, vous parlez des marchands de sommeil. Dans un autre registre, vous parlez également de Toulouse qui perd son accent. Alors même s'il y a encore des chansons plus très joyeuses comme Les Petits Pas, Zebda reste et restera engagé.
Oui, parce que l'engagement fait partie de l'ADN de Zebda. D'ailleurs, on est un des seuls groupes de rock en France qui s'est créé justement dans l'idée d'être politique. Alors c'est souvent les groupes font d'abord de la musique et puis se disent tiens, on va défendre la veuve et l'orphelin. Nous, c'est d'abord l'idée de défendre l'opprimé, et la musique a longtemps été juste un support. Et Zebda, avant d'être Zebda, c'était un groupe de jeunes politisés qui menaient un combat politique. Et tout simplement, Zebda l'a rendu, a fait que le message a été transporté par la musique. Mais voilà, c'est une identité qui était complètement imbriquée dans la manière dont on était en tant qu'individu. Et voilà, Zebda a permis que le discours se fasse entendre, et même il a permis qu'on le fasse passer de manière pas dogmatique comme peuvent le faire des politiques, mais à travers une poétique. Et ça vous intéresse que ce soit pas que ce soit un spectacle qui propose cette idée et pas un meeting.
Donc en fait, la musique, c'est votre média pour parler de vos sujets. Vous pourriez pas imaginer une musique sans message.
Oui, c'est à peu près inenvisageable pour nous. comme on considère que l'art est une extension du politique, en fait. Il est là pour éclairer les gens. Il est là pour apporter, pour mettre en lumière l'état du monde et en particulier la laideur du monde. Et à travers l'art, comment trouver des pistes de travail pour rendre le monde plus humain.
Comment est-ce que ça se passe, l'écriture des textes? Je crois que c'est vous, Majid Cherfi, au Sam Zedda, qui écrivez les textes. Comment ça se passe? Est-ce que vous en parlez avec vos collègues? De quoi vous êtes influencé par l'actualité? Par quoi vous êtes influencé?
Un peu comme tous les gens qui écrivent, moi je suis influencé par tout ce qui se passe autour de moi. Je sais que dans le groupe, par exemple, on est un groupe... C'est un peu marrant, dans le bus, vous avez l'impression d'être dans le cercle des philosophes disparus, où les sujets de fond sont soulevés tout le temps. Voilà, moi je tends l'oreille, et parfois même, tu vois, Majid, comme par exemple les Chibani, je sais que c'est Mousse qui en parlait beaucoup, parce qu'il était particulièrement intéressé par le sujet, et puis j'ai fini par trouver une piste pour l'écrire. Et donc c'est aussi en écoutant les autres, et puis... ou en m'écoutant moi, et faire en sorte qu'on soit sur des sujets qui interpellent un peu tout le groupe.
Et comment est-ce qu'on fait sur scène pour transposer des messages et les rendre en même temps vivants pour la foule, en live, comme ça? Comment est-ce qu'on fait pour transmettre ce message-là? Comment est-ce qu'on passe d'un texte très écrit et très engagé à la scène? Comment ça se passe pour Zebda?
Ben c'est une équation qui a tout le temps été assez infernale pour nous. Hein. La scène, pour nous, c'est tout le temps vraiment le funambule sur un fil, avec l'idée d'aimer que comment faire bouger les jambes et élever l'esprit. Et donc, voilà, c'est une équation difficile. Et nous-mêmes, chaque fois, on se pose la question de savoir si on est dans un bon équilibre de bonne humeur et de gravité, de musique ensoleillée et de textes graves, ou bien l'inverse. Et on aime cette idée de la complexité, en fait, parce que la seule vérité qui compte pour nous, c'est la complexité. Donc pendant très longtemps, les gens n'ont pas compris ce qu'était Zebda sur scène, et aujourd'hui, on sait qu'on va voir Zebda parce que on interpelle l'esprit, et puis on a envie de sourire, sans trop sourire, l'envie de danser, mais pas que danser. Il y a un moment où tout à coup une solennité s'impose, et on aime jouer avec ce registre-là.
Comment se passe la tournée actuellement, justement? Est-ce que vous sentez que ça marche, cet équilibre, pour cette tournée?
Oui, bon, ouais, franchement, là, plus que jamais, en vérité, parce que on a trouvé... On a atteint un point d'équilibre plus harmonieux que jamais dans ce qu'on avait envie de faire sur scène. Longtemps, l'énergie a pris le pas sur l'esprit, et aujourd'hui, le live pour Zebda, c'est vraiment un pur plaisir, parce qu'on sent entre nous qu'il y a un point d'équilibre assez raffiné qu'on a trouvé depuis quelques années, quoi.
Tout à l'heure, Majid Cherfi, vous avez parlé de la laideur du monde. Est-ce qu'on peut parler justement du monde politique, en tout cas? Il y a 2 ans et demi, vous avez soutenu la candidature de François Hollande, Zebda. Aujourd'hui, quel recul vous avez à la mi-mandat du président?
On a soutenu François Hollande sans conviction forcenée, hein, je dirais. On l'a soutenu parce que c'était le candidat de gauche et qu'on aurait soutenu un candidat de gauche. Mais ça fait maintenant un moment que ça dure, la désillusion de la gauche. On a eu l'humiliation avec la droite. Je parle en tout cas pour nous, gens de l'immigration. Et voilà qu'on a le mépris de la gauche. Je pense par exemple au droit de vote des immigrés qu'on attend depuis 81. C'est vous dire si on est amoureux du Parti Socialiste.
Et comment vous ressentez le changement de municipalité à Toulouse?
Comment je le ressens? On aurait aimé que que la ville, quand elle est devenue socialiste, elle passe à gauche. Ce qui n'a pas été tout le temps le cas.
Déçu.
Oui, bien sûr. Nous, on s'imagine une gauche chaleureuse, fraternelle, assumant sa conviction pour l'humanité et moins sur l'économique. Donc c'est comme ça, évidemment, la société a besoin de gestion équilibrée, mais nous, on considère qu'elle a encore plus besoin qu'on investisse sur l'humain.
Est-ce que vous restez optimiste malgré tout ?
Optimiste, je vous dirais que je le reste par obligation, sinon je n'ai plus trop de sens de la vie. Mais par contre, accompagné d'un peu plus d'ironie, voilà, quant au devenir de l'humanité, voilà, l'ironie, peut-être un peu un poil de cynisme, a pris un petit peu de place. Quant à la conviction, elle reste une obligation parce qu'elle donne un sens à la vie. Et continuer de rechercher quelque chose dans l'humanité qui soit autre chose que du profit.
Un dernier message pour motiver Angers, où vous passez jeudi.
Oui, on va jeudi. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'après la conviction totale et pleine, on la retrouve en concert. Autant on la perd dans la vie réelle, parce que évidemment c'est moins évident. Mais en ce qui concerne le spectacle, on est sûr de porter notre rêve jusqu'au bout. Et donc, le spectacle est sans ambiguïté, il se joue à 110%, et quant à la réalité, chacun d'entre nous jongle avec elle comme il peut.
Merci beaucoup, Majid Cherfi, d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers.
Ouais, merci bien.
Zebda qui est donc en concert ce soir au Shabada. La soirée commence à 20h avec Karimouche en première partie. Et pour vous faire danser,
mais moi pour sortir de la mouise, y'a du boulet qui entravait mes quilles, pas torturer ma tête, j'ai pris mes chevilles. C'était danser ou être savant, bouger ses jambes ou les voir passer devant. L'une était Clyde et l'autre Bonnie, pour éviter au tempo l'agonie. Sur des petits pas de danse, des petits pas de danse, des petits pas de danse, des pas de star. Pendant des heures, en syncopé, sur Tam la motam, j'ai dansé. On a pris la scène comme on voit le maquis, sans armes mais comme des Cherokees. Et pour se sortir du cachot, pas le choix, fait péter le show. Sur des petits pas de danse, des petits pas de danse, funky, des petits pas de danse, des pas de star, pas de star. Samedi soir, jamais quelqu'un nous a vu nous asseoir. Si c'est debout qu'on danse, le logo n'était pas Made in France. C'est peu dire qu'on a fait un tabac dans les bois du fallait rentrer profil bas. Car à l'entrée, ils ont jamais compris que la misère fut la raison d'être funky. Des petits pas de danse, des petits pas de danse, funky. Des petits pas de danse, des pas de star, pas de star. Funky.
Les petits pas de danse de Zepta.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Ouais, j'ai osé. Et voilà la chronique d'Anaïs. Salut Anaïs, alors quoi de neuf sur ta planète techno? Ça fait un peu flipper là ce que tu nous fais écouter.
T'as raison de te méfier, ce type est un malade. Dernièrement, j'essayais de faire un tour sur ma bible boilerroom.tv et je suis tombée sur la boiler d'un artiste nommé Powell. La boiler date du 22 septembre et a été tournée à Londres et en toute honnêteté, ça tue. J'ai lu également dans une interview qu'il a donnée à electricbeats.net que son mot-clé était la provoque. C'est un lavage de cerveau, un mindfuck comme j'aime dire. Je cite, j'aime le sentiment d'inconfortable, de surprise et la claque qu'on peut se prendre en pleine face avec la musique. Et là, je le rejoins totalement. Il a réussi son coup. Sa boiler est tout simplement une grande claque. Une claque qui fait du bien. Pas celle que votre père vous a foutue quand il vous a vu avec une clope au bec pour la première fois.
Ça sent le vécu, ça.
Pas du tout, mais j'imagine que c'est pas très agréable. Enfin, Powell fonctionne en jouant sur des sons très faciles au début de ses sets pour attirer l'auditeur et ensuite se lâche à fond. C'est vicieux, mais fallait y penser. Et moi, ça y est, je suis amoureuse. On passe à l'agenda.
J'ai soif, on va où cette semaine?
Ce soir, let's go pour la Outlaw, au Jacaré Bar avec Solid Records, soirée gratuite à partir de 22h avec Max Gawren, Kerrienne et CD Simo, pas de quartier. Demain, on va au T-Rock Coco pour la Hawaii Psyché Party avec Bomb Boris, c'est de la Psyché Prog Tribal XP.
Oula!
Ouais! Allons-y donc! Et Ospé, c'est du rock blues psyché. À partir de 21h15, l'entrée est en participation libre. Enfin, vous donnez ce que vous voulez à l'entrée ou à la sortie. Dimanche, et vous allez me dire que je suis relou avec l'Irlande, mais au Centre des Congrès d'Angers, à 14h30, on a un spectacle de la compagnie Irish Celtic. Ça change si vous avez envie de voyager et ça coûte moins cher que d'y aller surtout. Tarif entre 29 et 43 euros. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à dans 2 semaines. Je vais aller hiberner une petite semaine dans ma douce sereine. Allez, bisous.
Bisous. La perme de ce soir, c'est la grande soirée de l'impro, salle Claude Chabrol, dès 20h15, une soirée qui mise sur le rire 19h. Et forcément l'impro, est organisée par l'Université d'Angers, entrée entre 3 et 5 euros. On termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore. Dans une semaine aura lieu la nuit des étudiants au musée des Beaux-Arts et on y sera, figurez-vous, une nuit des étudiants qui risque d'être fortement perturbée après les 3 meurtres qui en deuil l'événement, 3 meurtres que vous êtes appelés à résoudre sur la page Facebook de l'événement et en exclusivité sur Radio Campus Angers. Voilà un indice supplémentaire.
Petit meurtre au musée.
Bonjour expert NDE. Suite aux 3 meurtres du musée des Beaux-Arts, l'enquête avance enfin. Un témoin anonyme a laissé ce matin un message sur mon répondeur.
Bonjour, voilà, j'ai vu votre appel à témoin. Je crois que j'ai vu quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Mardi soir dernier, j'étais rue du musée. J'ai croisé un homme qui courait, il regardait derrière lui. Difficile à décrire, je l'ai vu de loin et puis il faisait noir. Il paraissait être de taille plutôt moyenne, brun, les cheveux courts, plutôt maigre, le visage assez fin. Alors, je crois qu'il portait un bouc ou une moustache. Ah, j'ai pas vraiment vu. J'espère que ça pourra vous aider. Au revoir.
Je fais appel à vous, expert NDE, pour faire le portrait robot de cet homme. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook La Nuit des étudiants-Musée d'Angers. Je compte sur vous.
À vos crayons, donc, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement. À 20h, vous retrouvez Turbulence, c'est-à-dire dans 5 minutes. Salut Florane.
Salut Tiffany, tu vas bien?
Ça va bien. Et toi?
Oui, très bien. Ce soir, on reçoit Jnendria, donc ce sont 3 angevins qui vont mettre un petit peu d'ambiance dans Turbulence ce soir.
Interview plus live.
Exactement, live acoustique.
Très bien, donc c'est dans 5 minutes, merci. Merci aussi à Anaïs et à Thomas. Merci à l'autre Thomas pour la co-préparation de l'émission et à Daphné pour la réalisation. Nous, on se retrouve lundi dès 19h. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Trouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.